Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Il y a un an, le 4 août 2020, Beyrouth était secouée par deux énormes explosions qui ont soufflé tout le quartier du port et ravagé de nombreux immeubles de la ville dans un très large périmètre. Le dernier bilan fait état de plus de 200 morts et 6500 blessés. C'est l'inflammation d'un stock de nitrate d'ammonium qui est à l'origine de cette catastrophe. Un an après, l'enquête patine et les victimes attendent toujours réparation. C'est le sens des interventions de nos deux invités ce samedi, Diane Assaf, très engagée dans le mouvement de la société civile, et Michel El-Meouchi, avocat de victimes libano-canadiennes. Une émission enregistrée à Beyrouth, dans les studios de notre partenaire Radio Liban. Bonjour Diane Assaf.
Bonjour Éric Bataillon.
Bonjour Michel El-Meouchi.
Bonjour Éric Bataillon.
Merci d'être avec nous dans les studios de Radio Liban, le partenaire de RFI ici à Beyrouth, puisque nous sommes à Beyrouth pour l'enregistrement de cette émission. Et avec vous, nous évoquons les conséquences de l'explosion dans le port de Beyrouth, explosion qui a lieu le 4 août 2020, c'est-à-dire il y a maintenant une année. Diane Assaf, quel impact cette explosion a-t-elle eu véritablement sur la société civile libanaise?
Alors, les mots sont véritablement trop faibles pour exprimer l'impact que l'explosion du 4 août a eu sur la société civile. Nous avons vécu un drame, plus de 200 morts, 6000 blessés et plus de 300 000 personnes ont vu leur maison détruite. J'ai moi-même perdu une de mes meilleures amies, Christelle, 36 ans, qui était tranquillement installée dans son appartement à Jemaïzé. Nous avons tous perdu notre droit primaire et élémentaire de vivre dans un environnement sain, dans un environnement propre et dans un environnement sécurisé. Des milliers d'enfants ont été blessés, délocalisés et traumatisés et payent le prix jusqu'à aujourd'hui et donc subissent les conséquences. En fait, le 4 août n'est pas la cause en fait de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Oui, c'est un point sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Michel El-Meouchi, vous représentez un certain nombre de victimes, de familles et de gens qui ont été touchés directement par cette explosion du 4 août 2020. Quel est le sentiment général qui émerge des témoignages que vous pouvez recueillir auprès de ces personnes?
Comme Diane l'a dit, c'est avant tout, il n'y a vraiment pas de mots pour exprimer ce qu'ils ressentent en ce moment, mais je crois ce qui aujourd'hui est leur plus grande crainte, c'est qu'ils ne voient jamais la justice. Ils se sentent délaissés et oubliés. Une grande partie n'a plus du tout espoir en la justice au Liban. Comme on en parlera, l'enquête ne mène nulle part. Et ce qu'ils veulent avant tout aujourd'hui, c'est pouvoir arriver à une enquête qui va déterminer les responsabilités pour ensuite pouvoir trouver justice.
Mais une enquête de ce type-là au Liban, selon vous, elle est possible?
Non, elle n'est pas possible au Liban. D'ailleurs, on l'a vu, ça fait 10 mois que l'incident s'est produit. Et tout ce qu'on a vu dans ces 10 mois, c'est au moment où le premier juge s'approchait de certains hauts responsables, il a été remplacé par un nouveau juge.
Donc... Oui, alors justement, Diane Assaf, vous considérez que la justice est trop lente et surtout qu'il y a des difficultés pour les juges peut-être d'agir sur le terrain?
Tout à fait. En fait, un an après, l'enquête n'a apporté, comme l'a dit mon confrère Michel, aucune réponse sur les responsabilités et les circonstances précises de cette mini-bombe atomique. Et j'aimerais revenir, si vous permettez, sur la décision de récusation du juge Fadi Sawan, qui était une aberration. Donc le juge Fadi Sawan était chargé des investigations et il avait été récusé par la Cour de cassation. En fait, le verdict s'était basé sur deux raisons qui vraiment ne tiennent pas la route. La première, c'est que comme l'appartement du juge Sawan a subi des dégâts matériels dans l'explosion, il lui serait difficile de rester objectif, sachant que tous les juges ont été affectés, que tous les Libanais ont quelque part été affectés par cette explosion, si ce n'est pas d'une façon matérielle, c'est au moins d'une façon morale.
Incluant les juges qui ont pris cette décision.
Incluant les juges qui eux-mêmes ont pris cette décision, tout à fait. Et d'autre part, le deuxième motif, c'est parce qu'il avait averti qu'aucune immunité ne tenait face à l'ampleur de ce qu'avaient subi les Libanais le 4 août. En fait, il avait affirmé qu'il n'allait pas tenir compte des lois déterminant les immunités. Et en fait, la vraie raison de sa récusation est que le juge Sawan avait osé mettre en cause, en décembre, 3 anciens ministres, ainsi que le chef du gouvernement sortant, Hassan Diab, qu'il avait accusé donc de négligence. Donc aujourd'hui, le juge Tarek Bitar l'a remplacé. Mais
ça n'avance toujours pas.
Toujours pas, on ne sait toujours rien. Nous savons plus de l'enquête des journalistes, de l'investigation des journalistes qui, eux, se sont érigés en procureurs du tribunal de l'opinion publique. Nous savons plus de ces journalistes-là que de l'enquête judiciaire.
Alors justement, quelle enquête est-elle possible, Michel Elmehouchi? Vous souhaiteriez qu'il y ait une enquête internationale, enfin une enquête délocalisée en quelque sorte?
Exactement. Donc une coalition d'organisations dont Human Rights Watch, Amnesty International, Legal Action Worldwide, Justice for Lebanon et bien d'autres ont étudié la question et ont identifié un recours très clair. Et c'est devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Et en ce moment même, il y a un événement qui se passe de la part des victimes en ce moment là-bas. Et tout ce qu'on demande à la communauté internationale, et on remercie énormément la communauté internationale et surtout la France et les Français pour toute l'aide qu'ils nous ont fournie post le 4 août, mais tout ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on soutienne cette demande des victimes, qu'un enquêteur soit nommé par le Conseil des droits de l'homme. C'est la seule demande.
Mais une enquête, même diligentée de l'extérieur, il faut qu'elle ait une action sur le terrain. Est-ce qu'elle peut se réaliser sur le terrain ?
Il y a un précédent au Liban qui est en fait l'enquête sur l'assassinat du Premier ministre Hariri. L'enquête était amenée à beaucoup de résultats. Le tribunal qui suit n'a pas fait l'unanimité, mais l'enquête en tant que telle a révélé énormément d'informations. Et il ne faut pas oublier que la France a envoyé des enquêteurs sur le terrain, les États-Unis ont envoyé des enquêteurs sur le terrain, et si je ne m'abuse, les Anglais et les Hollandais aussi. Nous n'avons jamais eu les informations et les résultats de ces enquêtes.
Alors, puisque vous parlez d'enquête de journalistes, tout à l'heure, Diana Saf, le journal allemand Der Spiegel a sorti une enquête, justement, et a mis en évidence le fait que le propriétaire du navire chypriote qui transportait le nitrate d'ammonium qui a donc explosé dans le port, cet homme, cette organisation avait un lien avec le Hezbollah. Est-ce que poursuivre le Hezbollah est du domaine de l'envisageable?
C'est certainement possible. C'est quelque chose qui relève un grand danger pour ceux qui oseraient le faire, pour la simple raison que le Hezbollah, en général, assassine les gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Mais c'est certainement une possibilité disponible à l'étranger, parce que comme le Hezbollah est classé comme étant une organisation terroriste dans la plupart des pays de l'Occident,
notamment au Canada,
ça fait qu'il y a moyen de le poursuivre devant les tribunaux donc du Canada, de la France, etc. C'est une possibilité, avec un petit challenge de juridiction, mais au moins c'est une possibilité.
Alors justement, sur le plan judiciaire, un an après, Diana Saf, est-ce que l'on sait quelque chose au niveau des responsabilités? Est-ce que quelque chose a déjà émergé sur des éventuelles responsabilités de responsables sur le port?
Alors en fait, comme je l'ai mentionné, il y a la responsabilité de la négligence. Et là, dès que le juge Sawan s'est approché de ces personnes-là, de ces hauts fonctionnaires et des ministres, il a été récusé. Mais là, je voudrais juste préciser le point que Michel a fait, c'est qu'il faut différencier entre l'investigation et le procès lui-même. C'est-à-dire que nous, ce qui nous importe, c'est l'investigation, c'est le soutien international pour l'investigation. Parce que, comme on l'a vu avec Hariri, l'investigation internationale a apporté beaucoup de détails. Après, il y a eu des genres d'accords entre le gouvernement libanais et le tribunal international. Ils étaient mis d'accord pour ne condamner aucun parti politique. Et donc c'est pour ça que finalement, au bout du procès, on a eu la condamnation d'un homme, ce qui en fait ne veut rien dire. Et là, vraiment, l'enquête est entravée, elle est retardée. Nous vivons vraiment une ingérence politique dans le système judiciaire. Ces ingérences-là sont flagrantes. Les hauts responsables bénéficient d'immunité. Je veux même vous raconter vraiment une petite histoire mais qui frôle presque le ridicule. Imaginez-vous que le ministre de l'économie avait demandé au juge Bitard, qui est le juge d'investigation aujourd'hui, de publier un rapport officiel excluant la piste terroriste pour accélérer le déblocage des indemnisations des victimes par les assurances. Donc vous avez un ministre qui demande au juge de publier un rapport qui irait dans un certain sens. Et donc je crois que, après toutes ces expériences, après tout ce manque de responsabilité pendant des décennies sur pas seulement le 4 août, mais des dizaines d'attentats, donc aucune responsabilité, aucune personne n'a été jugée, aucune personne n'est en prison. Je crois que c'est ce qui a poussé une cinquantaine donc, de groupes libanais et des familles de survivants de demander aux États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de lancer une mission d'enquête.
Orion Hebdo sur RFI.
Michel El-Meouchi, est-ce que ça veut dire que l'État libanais, par certains aspects, est défaillant ?
Je dirais plus que défaillant, il est certainement défaillant. On le sait déjà, le mécanisme judiciaire au Liban est maintenant sous le contrôle politique d'une alliance entre certains partis avec le Hezbollah. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de demander, c'est aux coupables de s'auto-déclarer coupables. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut savoir avec certitude, donc si on prend aujourd'hui, il y a un an, le Premier ministre Diab était déjà au courant de ce qui était au port. Il avait un mois et quelques pour réagir, il n'a rien fait. Le président a été avisé avec certitude, avec accusé de réception en juillet, ainsi que tous les chefs des agences de sécurité, donc police, etc. Donc ils sont à tout le moins...
Il avait répondu, c'était trop tard.
C'était trop tard, c'est ce qu'il nous a dit après.
Voilà, il nous a dit, mais c'était trop tard.
Voilà, on sait déjà, sans avoir besoin d'une enquête, mais ça doit malheureusement venir d'une enquête, ça ne peut pas venir d'une victime, qu'ils sont coupables de négligence criminelle.
Une négligence qui a commencé en 2013, lorsque la cargaison de nitrate d'ammonium a été installée dans le port, alors que, visiblement, ce n'était pas autorisé.
Exactement, donc il faut l'autorisation du Conseil des ministres pour qu'une telle cargaison entre au port de Beyrouth. Entre 2013 et le 4 août, il y a eu à tout le moins 6 notifications aux instances judiciaires et gouvernementales que cette cargaison était au port de Beyrouth et aucune action.
Mais alors, Diane Assaf, est-ce que, et vous l'avez évoqué en début de cet entretien, quel lien y a-t-il entre cet événement et la situation économique que le Liban connaît aujourd'hui ? Est-ce que cette explosion du 4 août a favorisé, provoqué ce mouvement populaire et aussi cette crise économique ? Ou au contraire, est-ce que c'est une conséquence simplement de problèmes antérieurs ?
Ah oui, mais pour moi, c'est clairement une conséquence. C'est le résultat d'années d'incompétence, de négligence, de corruption. 2700 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans le port au milieu de la capitale. Cela fait des décennies que les institutions sont dégradées, gangrénées, que le clientélisme règne dans tous les services et dans les institutions de l'État. Le Liban fait face à des difficultés financières, économiques, sanitaires et sociales de façon, si vous voulez, claire depuis 2019. Mais en fait, cette crise a commencé bien avant. Les premières prémices de cette crise sont apparues il y a 10 ans, d'après les experts économiques. Donc l'explosion n'a fait qu'aggraver la situation. L'explosion du 4 août n'est pas raison de ce que nous vivons aujourd'hui.
Y a-t-il quand même conséquences particulières qui montrent qu'aujourd'hui, la vie à Beyrouth et au Liban est difficile ? Tant il y a des pénuries et coûte extrêmement cher, la livre libanaise s'est effondrée. Est-ce que le 4 août en est quand même une cause ?
Sûrement, c'est quand même une cause. Le Liban, en fait, est en train de vivre plusieurs crises en même temps. Une crise économique, sociale, monétaire, sanitaire, éducative. Des milliers d'enfants sont confrontés au risque réel de ne plus jamais retourner à l'école, ni même d'avoir accès à l'éducation. Les jeunes sont en train de plier bagages, de tourner leur dos, peut-être pour toujours au Liban. Jadis, la fierté du Liban, le secteur hospitalier, aujourd'hui, paye un très lourd tribut. Les Libanais, vous l'avez mentionné, et d'où mon retard aujourd'hui à arriver ici au studio, on se met des heures dans des files d'attente interminables aux stations-service. Ça provoque des embouteillages monstres. La pénurie du carburant fait craindre une coupure générale d'électricité. Plus de la moitié de la population libanaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Les classes moyennes sont menacées par une paupérisation accélérée. Que voulez-vous de pire que ça ?
Alors justement, parlons peut-être un peu de l'avenir. Michel El-Meouchi, comment la contestation qui a émergé d'une façon assez forte le 17 octobre 2019 peut-elle aujourd'hui déboucher sur une proposition, une alternative en tout cas politique crédible pour conquérir peut-être le pouvoir et aller à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui et surmonter les difficultés? Est-ce qu'il y a des alternatives qui existent déjà ou qui pourraient exister?
Oui, certainement. Donc depuis le 17 octobre 2019, il y a tout un mouvement de contestation qui est né. Il a énormément souffert du fait que, comme l'a évoqué Diane, le citoyen aujourd'hui est obligé de passer toute sa journée à s'assurer qu'il continue à exister, à survivre. Et donc en fait, il n'y a pas le moyen de penser autrement que comment mettre de la nourriture sur la table de la famille ce soir. Je ne pense pas que c'est forcément un accident. Ça fait que la population est trop occupée à survivre plutôt que de lancer une révolution. Mais le mouvement existe, le mouvement est en train de se consolider. Je crois que tout le monde a compris que l'union fait la force et j'espère que, avant même les élections législatives de l'année prochaine, on pourra peut-être voir un mouvement qui renaît et qui pourrait mener à un changement.
Oui, justement, Diane Assaf, quelle serait pour vous une sortie de crise si elle existe aujourd'hui ?
Alors moi, vraiment, ce 4 août qui nous habite, cette situation dramatique qu'on a mentionnée, j'espère va apporter un changement de la situation politique, un renouveau socio-économique via les prochaines élections législatives, parce que moi, en tant que citoyenne libanaise, avocate, je ne vois pas un autre moyen de changement que par, qu'à travers les institutions démocratiques et constitutionnelles que sont en fait les élections législatives. Donc voilà, la révolution commence à s'organiser, les efforts se multiplient en vue de ces élections. Je fais moi-même partie d'une plateforme, Nahwa al-Watan, qui est en fait une plateforme électorale qui a été fondée dans le but d'offrir aux électeurs une alternative en vue des élections législatives de mai 2022, en ayant comme but de combattre cette oligarchie vraiment à plusieurs têtes qui est enracinée depuis des décennies. Il faut vraiment que les Libanais qui veulent le changement, qui sont en train de se plaindre, qu'ils votent aux prochaines élections législatives et à tous les Libanais, à la diaspora, donc aux Libanais vivant à l'étranger, ceux qui nous écoutent, il faut vraiment qu'ils votent aux élections législatives de 2022. Et en attendant l'enregistrement, il faut qu'ils s'assurent qu'ils détiennent un passeport libanais valide ou une carte d'identité pour qu'ils puissent voter aux élections législatives de 2022.
Bon, l'appel est lancé, on l'a entendu. Mais ne craignez-vous pas que les partis politiques traditionnels, finalement, sortent quand même vainqueurs de ces prochaines législatives en mobilisant leur soutien ?
Il est clair qu'eux-mêmes ont en fait incorporé cette loi, une loi à leur taille, une loi où eux s'assurent qu'ils en sortiraient gagnants. Mais on ne peut pas continuer à réfléchir comme ça. On ne peut pas continuer cette politique de victimisation. Il est à noter que plus de la moitié des Libanais n'avaient pas voté aux élections législatives passées. Donc juste imaginez-vous quel changement nous pouvons apporter si tous les Libanais se mobilisent et exercent leurs droits et leurs devoirs de voter.
Michel El-Meouchi, combien faudrait-il de personnes pour renverser le système aujourd'hui ? Est-ce qu'avec 10% de la population qui descend dans les rues, on peut espérer un changement ou faut-il plus ? Et n'y a-t-il pas un problème de leadership dans l'opposition ?
Oui, en fait, 10%, c'est bien plus que suffisant. Historiquement, 3 et quelques pourcents d'une population ont pu mener à des changements de gouvernement. La différence aujourd'hui, c'est que c'est très facile de faire descendre beaucoup de gens pour un événement grâce aux médias sociaux, etc., sans vraiment avoir construit une organisation qui a de la profondeur et qui a des tentacules qui couvrent le pays, etc. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est s'organiser en opposition unie et bien organisée, et ça peut mener à du changement. J'en ai aucun doute, et le changement est inévitable, c'est une question de quand.
Merci à tous les deux, Diane Assaf et Michel El-Meouchi. Vous êtes l'un et l'autre, l'une et l'autre, avocat et ici très impliqué dans les affaires du Liban, notamment de la société civile. Je voudrais rendre hommage.
Je pourrais ajouter une dernière chose,
oui.
Un appel aux Français qui nous écoutent et surtout au président Macron. Il avait dans le passé soutenu une enquête internationale dans le 4 août. Aujourd'hui, c'est la seule chose que nous demandons. Soutenez cette demande des victimes parce que ça peut mener à des résultats. Et c'est la seule chose qu'on demande, et arrêtez de traiter avec ce gouvernement criminel.
Et je dis merci également à Nanette Ziad et à Fadi Kassem qui ont assuré la technique de cette émission. Émission enregistrée ici à Beyrouth dans les locaux de notre partenaire de Radio France Internationale, Radio Liban. Merci à tous.
Merci beaucoup.
Merci.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Demain, premier épisode d'une série d'été consacrée au pétrole du Moyen-Orient. Une histoire racontée par Philippe Petria et tirée de son livre « Au pays de l'or noir » publié chez Gallimard dans la collection Que sais-je. À demain donc, dans un instant, le journal. Musique du